Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de l'œuvre de la peintre franco-suisse Pierrette Bloch, et plus particulièrement vers l'une de ses œuvres qui se trouve dans la collection permanente du Musée Fabre à Montpellier. C'est une œuvre issue de la série Ligne de points et date de 1994. Devant cette œuvre, nous allons nous retrouver avec la conservatrice des collections contemporaines du musée, Maud Maron-Wojewodzki. Mais d'abord, quelques mots biographiques sur Pierrette Bloch. C'est une peintre née le 16 juin 1928 à Paris, dans une famille suisse, et elle est restée en France toute sa vie, sauf pendant l'occupation où sa famille, qui est juive, regagne son pays d'origine. À son retour à Paris, elle commence des études artistiques à Paris auprès de Henri Goetz, peintre franco-américain, et auprès de André Lotte, peintre et théoricien français, représentant du mouvement cubiste. Et en 1949, elle rencontre le peintre Pierre Soulages et sa femme Colette. Et les échanges avec ces derniers vont marquer et influencer durablement sa pratique. Dès 1951, Pierrette Bloch expose son travail, mais celui-ci reste confidentiel, elle ne sera jamais à la mode. Pierrette Bloch disparaît le 7 juillet 2017. Pendant toute sa vie, Pierrette Bloch a développé une œuvre utilisant aussi bien la peinture, le collage, le tissage et la sculpture. Toute son œuvre est abstraite et fondée sur le contraste entre le noir et le blanc. Travail minimaliste à partir de matériaux pauvres. Elle fait des sculptures à partir de fils d'écrin, du presque rien, et elle dessine à l'encre de Chine sur toutes sortes de papiers. Et puis, Pierrette Bloch ne cherchera jamais à figer son œuvre d'une manière protocolaire, ni d'ailleurs de promouvoir son travail. Elle s'est placée en dehors de tout jugement des autres. C'est peut-être là une des raisons pourquoi de toutes ces productions émanent à la fois une forme de légèreté, de fragilité, un rythme, un flottement, une respiration. L'ensemble de sa production est une sorte d'organisme vivant où rien ne semble forcé, tout semble être fait dans un demi-sommeil. Ses encres sur toutes sortes de papiers nous plongent dans une abstraction sensorielle délivrée à travers une grande économie de moyens. Les taches et les traces d'encre noire, qui constituent l'essentiel de son répertoire graphique, évoluent dans une répétition scandée par un geste à la fois fluide et régulier, tandis que les touches expressives incarnées ne cessent de se renouveler. Jouant sur les variations presque imperceptibles de tonalité et de rythme, l'artiste questionne notre rapport à l'espace, au temps et au mouvement. Loin d'être contrôlé ou automatique, le geste minimal suit une respiration qui impose son propre tempo et donne corps à la trame subtile, presque musicale, d'une lente dérivation. L'œuvre de Pierrette Bloch possède en effet l'inventivité et la justesse d'un langage instinctif et un perpétuel devenir dont elle dit elle-même « Commencé il y a longtemps, mon travail s'inscrit dans une continuité rythmée de haut et de bas, mais inextinguible. Le temps et les souvenirs s'y déroulent avec l'évidence et la certitude de leur linéarité. » En aucun cas, Pierrette Bloch voulait écrire des récits. Elle dit souvent qu'elle ne raconte rien. Elle veut juste faire advenir. Elle dit « Dire ce que je fais, non. Je peux le faire, mais pas le dire. C'est une aventure, toujours, quelque chose qui m'est inconnu. » Et plus tard, elle dit encore, « J'avais cru trouver un fil, je trouvais des mémoires. » Dans ces termes, l'artiste Pierrette Bloch témoigne d'un cheminement dans son œuvre dont l'évolution est presque indépendante de sa volonté. L'œuvre apparaît s'imposer davantage qu'elle ne le décide. À première vue, la démarche de Pierre Etbloch s'apparente à une pratique proche de l'écriture. Une écriture qui ne relève toutefois d'aucune procédure narrative, d'aucune progression chronologique ou argumentaire. Mais de cette comparaison, elles sont défendées. Et au plus, on pourrait peut-être parler d'enregistrement. Elle prend le temps, comme partition, pour le traduire, transposer, interpréter. Et elle dit « Je crois que toute ma vie, j'ai cherché à représenter le temps. » Ces pièces s'éloignent volontairement de nos habitudes visuelles et se tiennent à l'écart de tout système référentiel. Son œuvre ne souhaite pas véhiculer un sens, mais mesurer le temps, capturer, indiquer le temps qui passe. Cette linéarité dans son travail, des taches d'encre, puis de l'enchevêtrement du crin, n'implique pas une narration. Elle exprime graphiquement une mesure du temps et traduit, transpose la notion du temps en trois dimensions. De son vivant, longtemps personne ne se souciait de son travail, à part quelques amis proches comme l'artiste Michel Parmentier, Jean-Michel Meurice, Pierre Soulages, et ce relatif isolement de la scène artistique était sans doute une chance, car elle a pu développer son œuvre en secret, à l'abri de regards, et dont on peut dire aujourd'hui qu'il se trouve en dehors de toute catégorie esthétique. Ainsi, lors d'un entretien en 1998 avec le linguiste Pierre Encrevet, qui lui demandait comment elle situait son travail par rapport aux autres œuvres, elle dit « Mon monde, je sais ce qui n'en est pas, mais je ne sais pas ce qui en est. » La peinture a à voir avec le secret, avec ce qui est secret à soi-même. Et plus tard, elle ajoute « C'est un parcours, il y a une sorte d'aventure. On oublie par où on est passé, mais j'aime bien la brume. » Au musée Fabre, lorsqu'on est devant l'œuvre, la pièce de la série « Ligne de points », on est d'abord surpris par son format. C'est une toile en forme de bande d'une largeur d'à peine 3 cm et d'une longueur de 2,13 m. Tendue sur un support en bois, celle-ci est attachée en sorte qu'entre la toile et le mur il y a un jour, ce qui la rend sculpturale, elle jette un ombre. Le fond de cette toile est blanc et il s'y trouve des points d'encre noire peints l'un après l'autre, à chaque fois avec un espacement. Et les points ne se touchent pas. Et chacun de ces points est différent, d'un noir plus ou moins profond, d'une taille plus ou moins grande, et en fait, ces points ne sont pas ronds du tout. En apposant le pinceau à la verticale sur la toile, qui elle, à ce moment-là, est posée à l'horizontale sur la table, les poils des pinceaux imbibés de l'encre de Chine ont créé à chaque fois une forme nouvelle, imprévisible, et selon la pression, une tache plus ou moins grande, plus ou moins dense. On ne peut être que surpris par la pluralité et de la singularité de chacun d'entre eux. C'est un alignement, une répétition d'un seul signe typographique, le point. Et en même temps, ce n'est pas une. Chaque point est un monde, certains sont plus petits que d'autres, certains sont plus légers que d'autres, plus appuyés. Des sortes de molécules ou de corps cosmiques. Au cours des années 60-80, Pierre Etbloch avait participé au dialogue de l'abstraction entre Paris et New York. Elle découvre alors des formes molles de tissu d'un Robert Morris et elle découvre également les musiciens Lamonte Young, Terry Riley, Philip Glass et Steve Reich. Et ces artistes, dont les compositions, ont en commun de privilégier le dépouillement formel, le réductionnisme et la neutralité, ont indéniablement eu un effet important sur le développement de son travail. Cette ligne de points, ici au musée Fabre, est accrochée seule, à la hauteur des yeux. Mais il existe des photographies de Pierre Etbloch, dans son atelier à Paris, où on voit une multitude de ces lignes, points mises au mur. C'est alors une suite symphonique qui vibre, la plus longue entre elles et des 12 mètres. Mais écoutons maintenant ce que Maud Maron-Wojewodzki nous dit à propos de l'œuvre de Pierrette Bloch.
Grammaire fantôme.
Bonjour Maud, on se trouve aujourd'hui au musée Fabre devant l'œuvre de Pierrette Bloch. On se trouve devant l'œuvre nommée sans titre de 1994, une encre noire sur bande de toile. J'aimerais recueillir ta parole sur cette œuvre, comment elle est arrivée ici, et peut-être tu peux nous la décrire un peu et aussi nous dire voilà, à quoi ça te fait penser.
Oui, alors tout d'abord bonjour, merci de prendre ce temps au musée Fabre à la découverte de nos collections. Pierrette Bloch est une artiste très singulière et qui est rentrée dans les collections du musée Fabre en 2017 suite à une donation de ses légataires universels, dont Pierre Soulages, hein, qui était un très bon ami de Pierrette Bloch et qui était déjà présent depuis plusieurs décennies dans les collections du musée Fabre, une donation de 14 œuvres de l'artiste. Donc, cette artiste avait déjà eu des liens avec le musée Fabre, donc bon, déjà elle connaissait, il y a beaucoup d'artistes aussi qui font partie de nos collections qui étaient des proches de Pierrette Bloch. Donc, j'ai déjà mentionné Pierre Soulages, il y avait aussi Jean-Michel Meurice par exemple, hein, qui est décédé il y a peu. Et Pierrette Bloch avait fait l'objet d'une exposition en 2009 au musée Fabre, mais qui n'avait pas donné lieu d'acquisition, d'achat ou de don à ce moment-là. Et donc c'est plusieurs années après hein, qu'il y a eu cette volonté de faire entrer cet artiste dans le fond. Donc 14 œuvres hein, qui ont été présentées en 2021, juste après la réouverture post-Covid du musée. Et actuellement, donc deux œuvres de ce fonds qui sont présentées, deux œuvres très différentes. Une œuvre de 2008 sur Isorel, et puis l'œuvre devant laquelle nous nous trouvons actuellement, qui fait partie de ces lignes que Pierrette Bloch développe au début des années 1990. C'est une œuvre assez rare parce que la plupart des lignes de Pierrette Bloch sont sur papier. Hein, c'est une artiste qui a beaucoup travaillé le papier, hein, mais on sait très bien que le papier est un médium extrêmement fragile, qui nécessite des conditions de conservation aussi très particulières, parce qu'on est censé, dans un musée, exposer 3 mois les papiers et puis de les laisser reposer pendant 3 ans, car c'est un matériau qui est très sensible à la lumière. Là, on a de la chance d'avoir une œuvre qui est sur toile, une ligne sur toile, ce qui est donc, comme je disais, assez rare chez Pierrette Bloch, et qui nous permet de la montrer en permanence au sein des collections permanentes du musée. Donc, c'est une ligne qui fait plusieurs mètres de long et très peu de centimètres de haut. Je pense qu'on est à 5 ou 6 centimètres de hauteur. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de parcours, hein, c'est-à-dire que c'est une œuvre qu'on parcourt, qu'on regarde avec un début et une fin, comme lorsqu'on lit un livre, quand on lit une page. Et donc, il y a bien sûr un lien à l'écriture qui est particulièrement important dans le travail de Pierrette Bloch. Un travail hein, qui est caractérisé par une esthétique, un geste minimal. Hein, donc, il s'agit hein, de petits points d'encre noire sur la toile, de points successifs sur la toile laissée blanche. Il faut savoir que Pierrette Bloch travaillait ses lignes à l'horizontale. Hein, on a beaucoup de photos, on la voit dans son atelier. Et elle travaillait en même temps sur plusieurs lignes. Hein, donc, voilà, je pense que c'était un travail assez rapide. Hein, voilà, elle faisait ses points comme ça. Et elle disait d'ailleurs que ces lignes de points, ce geste du point, était corrélé à un rythme pardon, qui était celui de la respiration. Hein, donc, c'est ça qui est très beau, très touchant, très pur dans les œuvres de Pierrette Bloch. C'est que c'est d'une simplicité extrême, hein, des points d'encre sur une toile, mais qui témoignent d'un rapport organique au temps, un rapport humain au temps, et qui est celui tout simplement d'un rythme presque musical, qui est celui de la respiration.
D'accord, donc ce qu'elle dit de ces points, c'est lié donc, au souffle, et est-ce qu'elle fait un lien à l'écriture, à proprement parler, à la calligraphie, au geste écrit? Parce qu'on est quand même devant une ligne. Donc, et d'ailleurs, on la lit de gauche à droite, ce que bon, ça montre bien qu'on est formaté dans ce sens, mais effectivement, on pourrait très bien aller de l'autre côté. Donc, ce qui est assez touchant, c'est effectivement, enfin, c'est qu'il y a, voilà, il y a une oscillation qui a lieu. Hein. Il y a ces points qui ont tous une taille différente. De loin, on pourrait dire que c'est des points, mais en fait, chaque point est singulier. C'est ça qui est assez étonnant. Ça crée donc une vibration. Donc, je m'amusais à changer comme ça un peu rapidement la tête devant la ligne. Et il y a quelque chose qui se passe aussi qui est assez optique. Je trouve aussi que c'est une œuvre pas dénuée d'humour, hein, parce qu'elle fait quand même, elle se remarque ici de la collection par son format et par son minimalisme. Et donc voilà, donc ça c'est un autre sujet. Mais déjà première question, qu'est-ce qu'elle en dit de l'écriture? Est-ce qu'elle écrit à côté ou est-ce qu'elle veut pas que ça soit associé à l'écriture?
Alors, c'est un rapport qui est assez complexe, parce que souvent, en fait, c'est un peu le premier réflexe, c'est de parler d'écriture quand on voit ce travail. Donc, en effet, bien sûr qu'il y a un lien, il y a des choses qui se rapprochent d'une écriture, mais d'une écriture, et ça, c'est très important de souligner, et c'est ce qui la distingue de l'écriture, c'est qu'il n'y a aucune signification. Voilà, il y a vraiment aucun signifiant, ni aucun signifié dans ces lignes de points de Pierrette Bloch. Donc, pareil, la calligraphie, oui, il y a la technique de l'encre. Il faut savoir que Pierrette Bloch n'a jamais pu se rendre en Asie. Hein. C'est un de ses regrets, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose forcément qu'elle a observé de très près. Voilà. Donc, il y a quelque chose de l'écriture dans ces lignes de points, hein, qui rappelle d'ailleurs la ponctuation. On peut retrouver dans d'autres œuvres, notamment tous ces dessins de crin qu'elle va mettre en place aussi, notamment dans les années dès 79, des dessins de crin sur carton, qui rappellent aussi les boucles et les jambages de l'écriture. Je pense que la parenté s'arrête là, dans le sens où, en effet, Pierrette Bloch, contrairement à d'autres artistes, ne cherchait pas à créer un alphabet plastique, par exemple. On est vraiment très très loin de cette idée. Au contraire, on est plutôt sur un art qui cherche à montrer le temps, hein, voilà, une sorte comme peut-être l'a fait de manière plus conceptuelle l'artiste polonais Roman Opalka, qui crée comme ça ces lignes de chiffres, hein, voilà, donc on avait de l'écriture à proprement parler, mais cette écriture venait servir, et cette linéarité venait servir une sorte de décompte temporel, ce qui est peut-être un peu le cas aussi chez Pierrette Bloch, mais dans une démarche qui est plus en effet liée à un rythme organique. On n'est pas dans une régularité numéraire comme on pouvait avoir chez Roman Opalka, avec vraiment une forme de protocole très figé, très strict, hein, auquel il s'est tenu toute sa vie. Il y a une forme de liberté plus grande chez Pierrette Bloch, dans ses lignes de points, dans ses lignes de crin également. Alors, bon, moi, je n'ai jamais rencontré Pierrette Bloch, donc ce que je traduis, c'est par rapport à des interviews que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir, et des témoignages de gens qui lui ont été proches. Pendant longtemps, en fait, elle a très, très peu exposé. C'est vraiment dans les dernières années de sa vie, et puis aujourd'hui, c'est une artiste extrêmement reconnue à un niveau international. Mais c'est vrai qu'elle a assez peu montré son travail. Je pense que c'était une artiste qui revendiquait une forme de discrétion, qui s'amusait aussi beaucoup, une forme de modestie, de légèreté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sérieux non plus dans sa démarche, bien sûr, qui, je pense, était vraiment une démarche, comme je l'ai dit, vitale, en fait, liée comme ça un peu à un rythme, au rythme de la vie. Et ça, c'est notamment un ami, un artiste dont elle était très proche, Michel Parmentier, donc artiste important, hein, lié au mouvement BMPT. Hein, donc c'est le P de BMPT, hein, donc ce mouvement, une des dernières avant-gardes dans le contexte des revendications politiques, culturelles et intellectuelles de mai 68. Hein, donc ce courant dont le protagoniste le plus connu est Daniel Buren, et qui cherchait, pour faire vite, hein, le degré zéro de la peinture. Et Michel Parmentier, lui, faisait des successions comme ça de lignes suite à des pliages, donc des bandes. C'était pas des lignes, c'était des bandes de peintes et confrontées à des bandes non peintes. Hein. Donc il y avait vraiment une forme d'austérité. Et d'ailleurs, Michel Parmentier allait jusqu'au point d'arrêter finalement de peindre. C'était, on peut le dire, le degré zéro de la peinture, le non peint. Et Michel Parmentier, qui était proche de Pierrette Bloch, hein, d'ailleurs, il lui avait choisi, en fait, il lui avait proposé une ligne d'encre suite à une exposition qu'elle avait eue à la Galerie de France au début des années 90. Et Michel Parmentier avait dit « Ah ben, je vais prendre la plus nulle ». Il avait choisi une des bandes. Donc, on était toujours comme ça dans ce jeu aussi qui vraiment prend aussi en dérision tout simplement l'idée de l'art comme simple manifestation d'une forme de génie d'un artiste qui produit des chefs-d'œuvre, etc. Donc, on n'est plus dans une démarche, en fait, où l'œuvre est une sorte de fragment de témoignage d'une pratique artistique qui est totalement liée à la vie. Hein. Donc, c'est aussi les années des mouvements comme Fluxus qui mettent en avant voilà, cette idée que l'art ne doit pas être un monde distinct à part du réel et du quotidien. Et Michel Parmentier, qui donc, bon, s'amusait à choisir la ligne la plus nulle de Pierrette Bloch, disait aussi que ce qu'on voit hein, dans la beauté de l'œuvre de Pierrette Bloch, parce qu'on peut aussi quand même parler de beauté, c'était ce travail silencieux, hein, solitaire et silencieux, de trois fois rien. Et quand il parle de nullité, ce n'est pas au sens mauvais, c'est nul, c'est pas bien. C'est nullité dans le sens du rien, hein, de l'absence, d'une sorte de manifestation aussi d'un vide qui vient en contrepoint dans une forme de résistance à un trop-plus qui est celui de nos sociétés, d'ultra-consommation, de publicité outrancière, de foisonnement des images. Donc il faut voir aussi ces œuvres qui semblent humoristiques, elles le sont, aussi comme une forme de résistance et de réponse politique à un état du monde. Exactement. En fait, on a, pour synthétiser, on a une forme d'écriture du silence avec Pierrette Bloch. C'est vraiment ça, c'est donner une forme visuelle à quelque chose qui, finalement, c'est ce qu'il y a de plus impalpable, qui est le silence. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière très différente chez beaucoup d'artistes à cette période, que ce soit sous la forme de performances, d'œuvres purement écrites, littéraires, de sculptures et de peintures. Donc, par exemple, le musée Fab va bientôt dédier une exposition au sculpteur Tony Grand. Pareil, hein, dans ses œuvres, dans des bois extrêmement simples, très élémentaires, il y a une forme de silence qui s'impose face aux œuvres. Donc c'est vrai que c'est des œuvres dont il est souvent difficile de parler et de commenter. C'est presque très paradoxal de vouloir parler de ces œuvres en fait, qui demandent que de s'y confronter, d'être face à elles, dans une forme de présence du silence. Mmh. Les premières œuvres qu'on conserve, c'est des petits dessins du danseur Alvin Epstein qui avait dansé avec Étienne Ducroux dans les années 40, et elle va devenir très proche d'Alvin Epstein. Elle va se rendre une première fois, il me semble, dans les années 50, une seconde fois en 68 aux États-Unis, et elle va découvrir à ce moment-là de nombreuses galeries et notamment l'art minimal américain qui va quand même la frapper. Elle va beaucoup regarder Robert Ryman notamment, hein, qui fait l'objet d'une grande rétrospective en 1981 au Centre Pompidou. La musique aussi américaine, le minimalisme américain et européen, hein, va beaucoup l'intéresser, comme Steve Reich par exemple, hein, qui va être aussi une des références qui apparaît. Donc il y a bien sûr dans toute cette rythmique aussi très répétitive, que ce soit dans les arts visuels ou dans la musique, une influence chez Pierrette Bloch. En ce qui concerne l'arte povera, oui, bien sûr, elle en avait connaissance. Pareil, je ne crois pas qu'il y ait eu de lien avec ces artistes, mais en tout cas, on peut voir, peut-être plus que dans les encres, c'est dans l'autre versant de sa pratique que moi j'aime beaucoup, tout son travail autour des mailles et des crins, un lien avec cette idée aussi de matériaux pauvres, ou même dans son recours à l'isorel. Voilà, cette idée, en tout cas, de beauté dans le revêche, dans le simple, dans le sauvage, dans le matériau qu'on ne regarde pas, dans le précaire. Et ça va être en tout cas des préoccupations qu'elle va partager, en effet, avec des artistes de différents mouvements internationaux.
Et revenons un instant à Alvin Epstein, qu'elle a donc beaucoup dessiné, enfin, donc mime, elle a fait des dessins à partir de ce mouvement.
Et est-ce qu'on peut parler d'une manière ou d'une autre aussi des partitions? Parce que là, c'est quand même aussi une suite de mouvements rythmiques qu'elle a mis sur papier, hein, principalement. Donc, qui
en tout
apparaît.
Cas, oui, le rythme et le mouvement, c'est peut-être ce qui l'intéresse, je pense, le plus dans, dans sa pratique artistique. Donc, après, voilà, quand on parle de partition, tout de suite, il y a quelque chose de, finalement, de très construit dans une partition. Voilà, c'est quelque chose qu'on réfléchit, qu'on met sur le papier en amont pour après que ce soit interprété. Elle, finalement, il y a quelque chose, chez Pierre Bosch, je pense qu'il y a quelque chose de très, très spontané qui est fait. Et on a la manifestation directe, une forme de rapport au rythme, au mouvement, qui relie un rythme intérieur à des événements ou des formes extérieures qu'elle observe, que ce soit celui des matériaux qu'elle utilise ou du mouvement du danseur ou du mime face à elle.
Merci beaucoup.
Merci Nadia.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité, Thomas Hausberger. Fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.